La musique de l'ascenseur, chapitre 32. Boucher était attendu. Un comité d'accueil vint le prendre en charge sur l'arrière du bâtiment. Il pensa au quai de déchargement des magasins grande surface. Deux autres ambulances livraient leurs clients à l'hôpital. En dépit de ses malheurs, il riait intérieurement. Il se disait que, quelle que soit la situation, le schéma se déroulait à l'identique. Il y avait le grossiste, le fournisseur, les clients et le magasin de détail. En l'occurrence, il s'attribuait le rôle du client. Son généraliste était le fournisseur, le grossiste s'apparentait à l'établissement hospitalier, le magasin de détail serait le service vers lequel il allait immanquablement être dirigé. Toutes ces réflexions lui firent oublier sa fièvre et ses souffrances. L'ambulancier signa un bon de livraison et repartit. Le groupe longea un couloir blanc interminable. Arrivé au bout, le convoi à roulettes stoppa devant le monte-charge réservé aux malades. L'ascenseur partit vers l'inconnu. L'homme dans le brancard observait ce qui se passait autour de lui. Trois femmes l'accompagnaient dans son voyage. Il y avait un docteur, une infirmière et une aide-soignante. Pas un mot durant la montée dans les étages. La musique de l'ascenseur parvint jusqu'aux oreilles du patient. Il se remémora le son de la trompette. Il trouva une similitude avec l'instant présent. Il ne fut pas surpris lorsque la plateforme s'immobilisa et que la porte tarda à s'ouvrir. La coïncidence lui parut cocasse, mais la douleur l'empêcha d'aller plus loin dans la comparaison. À nouveau un long boyau, et ce membre qui le faisait atrocement souffrir. Le lit ambulant s'immobilisa enfin dans une salle. Compte tenu de ces maux, les intervenants décidèrent de le laisser sur le chariot et de découper la résine immédiatement. Il ne perçut pas le résultat escompté. Son genou, libéré de son carcan, prit un malin plaisir à répandre et amplifier cette impression désagréable sur toute sa surface. Avoir la moue dubitative de ceux affairés autour, il comprit que cela s'engageait mal pour lui. Après différents prélèvements sanguins, dont un sur la blessure purulente, l'infirmière lui administra deux injections dans l'abdomen. Le convoi se dirigea vers une nouvelle destination. Son arrivée dans la chambre réveilla son voisin d'infortune. Il s'agissait d'un homme d'une soixantaine d'années qui venait de subir une amputation du pied droit la semaine précédente. Malgré sa malchance, le collègue de chambrée montra un caractère agréable. Cette rencontre lui remonta le moral. Lui possédait encore tous ses membres. Hormis le personnel infirmier, personne ne vint à son chevet ce jour-là. Ce n'est que le lendemain que le chirurgien qui l'opéra des ligaments passa le voir. Le praticien ne se prononça pas sur le problème qui nécessitait l'hospitalisation du policier. Il ne cacha pas sa préoccupation face à la tournure que prenaient les suites opératoires. Il envisageait plusieurs hypothèses que les analyses devraient préciser dans les heures à venir. La première éventualité était un déchirement de la plaie avec une infection par streptocoque. La seconde se révélait tout aussi ennuyeuse. Le patient aurait pu contracter une maladie nosocoméale. Le médecin quitta la chambre en laissant le brave enquêteur dans une attente intolérable. Sous l'effet des remèdes palliatifs, la souffrance s'estompait, puis revenait intensément quelques heures plus tard. Il demanda aux infirmières les résultats du laboratoire. La réponse était toujours la même. Les investigations s'avèrent plus longues que prévu. Sa situation lui minait le moral. Pris dans un système dont il ne maîtrisait rien, il lui fallait subir en essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Il voulait guérir et partir au plus vite de cette prison. Il comprenait ce que vivait un prisonnier dans l'univers carcéral. Depuis 5 jours, le monde semblait s'être figé pour lui. Il n'existait qu'au travers des diverses interventions du personnel qui rythmaient ses journées. Le réveil avec les analyses, piqûres, prises de médicaments, le nettoyage des locaux, le changement des draps, la visite des médecins, le repas de midi, la tisane, les soins de l'après-midi, la soupe du soir, le passage de l'infirmière de nuit. Tout cela ponctué par la douleur et d'autres manifestations alarmantes. Au milieu de la nuit, il appela l'infirmière de garde. Il grelottait alors que la température dans la chambre avoisinait 25 degrés. Il ne percevait plus aucune sensation dans sa jambe droite et ne pouvait plus la bouger. L'expression de son visage se crispait. Pendant quelques instants, les muscles tendus n'obéissaient plus à son cerveau. Néanmoins, il gardait toute sa lucidité, malgré la température qu'il gagnait. Elle comprit aussitôt la gravité de son état. Elle contacta immédiatement l'interne de permanence et prépara une seringue pour faire face à l'urgence. Il fallait soutenir le muscle cardiaque et éviter l'arrêt fatal. Le jeune praticien se présenta au moment de l'injection. Il approuva l'initiative et examina attentivement le malade. En dépit de son manque d'expérience, le diagnostic tomba rapidement. « Il présente les symptômes d'une septicémie, déclara-t-il. Nous allons le traiter en conséquence. Il faudra le transférer au matin dans l'unité de médecine interne. » Il ne put dormir. Il pensait à Joël Lambert jusqu'à l'obsession. Sa faim prématurée lui posait question. Il ne pouvait se détacher de son sentiment de culpabilité face à la mort de cet homme innocent. Par assimilation, la musique de l'ascenseur venait lui chatouiller les oreilles. Le jazz l'habitait, et la maladie exacerbait ses envies d'entendre Miles Davis et son instrument divin. Il savait que cette trompette possédait les clés du mystère de l'affaire de la rue Paquet. Il se trouvait cloué dans ce lit d'hôpital dans un sale état. Il se demandait quand il pourrait monter là-haut, à la Croix de l'Alpe, et résoudre l'énigme.